Bon matin tout le monde. C'est encore un privilège pour moi de venir vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Mais c'est toujours avec crainte et tremblement que je le fais. Alors ce matin, je voudrais vous parler d'un sujet qui touche tout le monde finalement. Je voudrais regarder avec vous de la justification à la sanctification. Alors, on va remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Oui, Père, c'est encore avec crainte et tremblement que je veux m'approcher de ta parole ce matin pour partager ce que tu as mis sur mon cœur, Seigneur Dieu. Et je te prie, Père, que tu me couvres, Seigneur Dieu, que tu parles au travers de moi, Seigneur, que je disparaisse, Seigneur Dieu, sous ta parole, sous ce message, Seigneur Dieu, que tu as mis à mon cœur de partager, Seigneur Dieu. Guide-nous, Seigneur Dieu, dans ta parole. Parle à nos cœurs. On a besoin, Seigneur Dieu, de toi. On a besoin de ta présence. On a besoin de ce que tu nous dis dans ta parole, Seigneur. On a besoin de le comprendre. On a besoin de le serrer dans nos cœurs, de le mettre en pratique. Parle-nous ce matin, Père. On te le demande au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, c'est quoi la différence entre la justification et la sanctification? Commençons par un peu définir les termes. La justification, dans le sens large du mot, c'est d'être déclaré juste, innocent ou en règle. Même si on ne l'est pas par nous-mêmes, c'est d'être déclaré innocent. Point de vue légal, c'est d'être déclaré innocent par un juge ou non coupable. Par exemple, l'accusé est acquitté pour aliénation mentale. Autrement dit, la loi ne s'applique pas à lui parce que dans sa tête, il n'était pas correct. Le crime a bel et bien été commis, mais il y a une raison pour justifier que la loi ne s'applique pas à lui. Une raison pour l'acquitter, pour acquitter le coupable. Du point de vue théologique, selon la Bible, c'est d'être déclaré juste, pas parce que nous le sommes vraiment, mais parce qu'il y a une raison extérieure à nous-mêmes. Ou plutôt une personne autre que nous-mêmes qui nous justifie, c'est la personne du Seigneur Jésus. Justifié par la foi en Jésus-Christ. Oui, je suis coupable face à Dieu, coupable d'avoir rejeté Dieu, mon Créateur. On est tous coupables. L'apôtre Paul est l'un de ceux qui explique le mieux cet état-là de l'être humain. Dans le livre, dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 3, l'apôtre Paul il dit ceci, « Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Qu'est-ce que l'apôtre Paul veut dire ici? Justifié sans la loi, ça veut dire que la loi ne s'applique pas à nous. Il y a une loi, la loi de Dieu, la loi de l'Ancien Testament, on sait c'est quoi, Exode 20. La loi ne s'applique pas à nous. Pourquoi? Parce qu'il y a une justification. La justice s'était rendue par autre chose que la loi. La justice a été rendue pour nous par la foi en Jésus-Christ. Ça s'applique à qui, ça? À tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Qui est éligible à ça? Bien, tous ceux qui ont péché. Pourquoi? Parce que tous ont péché. Alors, nous sommes tous condamnés. Et par la foi en Jésus-Christ, nous avons tous la possibilité d'être justifiés. Pourquoi justifié par Jésus-Christ? Qui est-il pour nous donner pour avoir ce pouvoir-là de nous justifier devant Dieu? Bien, toutes les saintes Écritures sont centrées sur sa personne, sur la personne du Seigneur Jésus, à commencer par les prophètes dans l'Ancien Testament, les Évangiles. Jésus est venu lui-même annoncer le salut, accomplir le salut, et les épîtres, les différentes épîtres, les enseignements que Dieu a laissés à ses disciples de nous partager. Le prophète Ésaïe, 700 ans avant la naissance de Jésus, a dit ceci. C'est un passage qu'on entend souvent dans le temps de Noël. Ésaïe, au chapitre 9, le verset 6. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. » Alors cet enfant qu'Ésaïe annonce, c'est nul autre que Dieu qui a pris une forme humaine puis qui est venu sur la terre pour sauver l'homme de son péché. C'est comme ça que lorsque l'ange vient à parler à Marie, il dit « Ton fils, il va te naître un enfant puis c'est lui qui va sauver ton peuple de son péché. » Alors, de justifier, de rendre juste. Alors, Ésaïe annonce ça 700 ans avant la naissance de Jésus. Puis l'apôtre Jean, dans son évangile, va reprendre ces mêmes affirmations-là en d'autres termes. Il va dire dans Jean, au chapitre 1, des versets 1 à 3, il va dire « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Alors il dit « la parole », puis il dit « toutes choses ont été faites par elle ». Alors on comprend que la parole, c'est une personne. Il fait référence à une personne. Au verset 14, je ne te l'ai pas donné peut-être celui-là. Au verset 14, il dit « Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. » Alors là, oups, il nous l'apprend que la parole, c'est une personne. Elle a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils venu du Père. Donc, Jésus, c'est Dieu fait homme. La parole a été faite chair. Encore dans l'Épître de Paul aux Colossiens, Paul confirme la nature du Seigneur Jésus. Colossiens, au chapitre 1, verset 15, à partir du verset 15, il dit « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. » Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu, par lui, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui était sur la terre que dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Bon, c'est un grand passage. Mais le scénario est le suivant. L'homme est séparé de Dieu à cause du péché. Il a besoin d'être justifié. Puis cette justification-là, c'est la personne du Seigneur Jésus qui va donner sa vie sur la croix. Lui fait homme venu prendre la condamnation à notre place, à ma place. Donc, en résumé, l'être humain est coupable péché, puis ce péché-là, qu'est-ce que ça fait? Ça amène une séparation entre Dieu et lui. Jésus a pris la condamnation. Quand quelqu'un croit en Christ, Dieu le déclare juste. Sa dette est payée, il a la paix avec Dieu. Alors, la justification, c'est ça. C'est que je suis accusé, je suis déclaré coupable, les faits sont avérés réels. Oui, je suis coupable d'avoir fait ça, mais j'ai une justification. Comme je vous ai dit tantôt, aliéné mental ou légitime défense, c'est notre justification. Mais là, la justification, c'est la personne du Seigneur Jésus. Je mériterais d'être condamné, je mérite la condamnation, mais je suis justifié par le Seigneur Jésus. Alors, maintenant, il y a une question. Avant de parler de la sanctification, il y a une question à se poser. Est-ce que je suis justifié? Est-ce que j'ai placé ma foi en Jésus-Christ pour être justifié? Quand l'accusé se présente en cours puis qu'il plaide non coupable, il doit pouvoir présenter une preuve pour se justifier. Son état mental, son légitime défense. Sinon, s'il n'y a pas de justification à apporter au juge, puis que les faits s'avèrent être véritables, bien, il est condamné. Devant Dieu, avez-vous une défense pour qu'il vous reconnaisse non coupable, pour qu'il vous justifie? Est-ce que vous allez invoquer votre bonne vie, vos bonnes œuvres, votre religion, votre charité pour être justifié? Est-ce que c'est ça ma justification? L'apôtre Paul répond à ça, non. L'apôtre Paul, dans Éphésiens, au chapitre 2, versets 8 et 9, c'est toutes des choses que vous connaissez, je le sais. Mais il faut s'en rappeler. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Alors, ce n'est pas par les œuvres. Autrement dit, ce n'est pas par quelque chose que je peux faire. Peu importe la chose que je fais, ça ne marche pas. Les religions nous enseignent différents moyens pour gagner notre ciel. Tous ces moyens-là sont contraires à ce que la parole de Dieu nous enseigne. Si les hommes enseignent quelque chose, puis que la parole de Dieu enseigne le contraire, qu'est-ce que vous allez croire? Qu'est-ce qu'on va croire? On va croire la parole de Dieu. Mais il y en a qui ne répondent pas ça. Il y en a qui répondent, je vais croire à ce que ma religion me dit. Bon, maintenant, parlons de la sanctification. Le mot sanctification, ça veut dire mis à part. Il n'y a pas de définition juridique pour ce mot-là, parce que c'est un mot qui est comme réservé à la théologie. Ça vient d'une définition, un mot théologique. Être mis à part pour Dieu et être transformé progressivement pour devenir davantage semblable à Jésus. C'est ça la définition de sanctification. Être transformé progressivement pour ressembler de plus en plus à Jésus. Qui peut être sanctifié ou mis à part? Pas n'importe qui. C'est ceux qui sont justifiés. Si vous n'êtes pas justifié, vous ne pouvez pas être sanctifié. Pour être sanctifié, il faut être justifié. La justification, c'est l'œuvre de Dieu. La justification comme telle, la personne du Seigneur Jésus, c'est l'œuvre de Dieu, comme on vient de voir. Et c'est par la foi en Jésus-Christ. La sanctification demande, par exemple, la collaboration de l'homme. Pour que Dieu me transforme, je dois m'attacher à lui, me laisser transformer, obéir à sa parole. Alors, la justification, la personne du Seigneur Jésus, la croix, c'est l'œuvre de Dieu. La sanctification, on va voir que c'est aussi l'œuvre de Dieu, puis aussi il y a une part qui va à l'homme. Et bien entendu, la justification, il y a une part, il y a une réponse qui vient de l'homme aussi, comme je vous ai partagé dans mon dernier message. L'homme qui est perdu en forêt, il entend les voix qui crient. Il entend les voix des secouristes qui crient. Par ici, viens par ici, suis la voix, écoute la voix, puis suis la voix. Ça, dans la justification, il ne faut pas oublier ça, l'homme a une réponse aussi à donner. Mais dans la sanctification, l'homme a une réponse à donner aussi. Bon, premièrement, le rôle de Dieu dans la sanctification. À notre conversion, Dieu nous équipe pour la sanctification. On est équipé pour la sanctification. C'est ce que le prophète Ézéchiel nous dit. Dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 36, le verset 26, on peut lire ceci. « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Le verset 27, lui non plus, je ne te l'ai pas donné, Yolande, je pense. « Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Alors, ici, mon esprit, quand on lit le verset 26, on voit « esprit » avec un petit « e », un esprit nouveau. On se dit, c'est quoi ça? C'est de quoi il parle? Au verset 27, là, il dit « mon esprit ». Alors là, on voit qu'il parle de quoi? De l'esprit de Dieu. Alors, en hébreu, les majuscules, ça n'existe pas. Si dans votre Bible, dans Ézéchiel 36, verset 27, le mot « esprit » est écrit avec un petit « e », c'est simplement parce qu'il respecte le texte hébreu dans lequel il n'y a pas de majuscule. Mais ça ne veut pas dire que c'est un esprit humain. C'est le Saint-Esprit, c'est l'esprit avec un, dans notre langue à nous, dans notre compréhension, avec un grand « e », c'est le Saint-Esprit. Dieu nous dit « je vais vous donner mon esprit ». Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit intervient de façon ponctuelle. Alors, on voit Saül est saisi du Saint-Esprit, David est saisi du Saint-Esprit, Élie est saisi du Saint-Esprit, Samson, il est saisi par l'Esprit, puis Élisée. Alors, le Saint-Esprit n'habite pas dans le cœur des personnes dans l'Ancien Testament, c'est seulement à partir de la Pentecôte que le Saint-Esprit va être répandu dans les cœurs des croyants. Et ça, ça va faire une grande différence pour la justification, puis aussi pour la sanctification. L'apôtre Paul, dans Philippiens, au chapitre 1, verset 6, alors on est toujours dans le rôle de Dieu en ce qui concerne la sanctification. L'apôtre Paul, il dit, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ, pour le jour de Jésus-Christ. » Alors, il va la rendre parfaite. Qui va la rendre parfaite? Et le Seigneur Jésus, il est dans nos cœurs par son Saint-Esprit, puis il dit l'œuvre du salut, il va la rendre parfaite. C'est l'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs, par l'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs, que Dieu nous aide dans la sanctification. Et toujours l'apôtre Paul, dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 2, là, c'est un passage que je vous ai souvent partagé, je le reparle encore, un grand passage, où ce que là, l'apôtre Paul y explique, c'est quoi qui se passe. On est toujours dans le rôle de Dieu dans la sanctification. L'apôtre Paul y explique comment ça se passe. Il dit au verset 6, 1 Corinthiens 2, verset 6, il dit, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Je vous finis la lecture de ça, puis je vais vous commenter ça après. Au verset 8, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Verset 9, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout même les profondeurs de Dieu, lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Alors, la sagesse mystérieuse et cachée de Dieu, c'est quoi? Mais c'est la connaissance c'est de connaître les choses de Dieu. Et la première chose que le Saint-Esprit nous aide à connaître, puis à comprendre, c'est le salut, c'est la justification en Jésus-Christ. La sagesse mystérieuse est cachée. Puis ça, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit que c'était destiné, au verset 7, il dit c'est destiné pour notre gloire. Et au verset 9, il dit pour ceux qui l'aiment. Il dit ça, ces choses-là, Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Alors, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs qui nous est révélée. C'est l'œuvre de Dieu qui nous est révélée par le Saint-Esprit dans nos cœurs. Il dit, cette sagesse-là, il n'y a aucun des chefs de ce siècle qui l'a connue. Autrement dit, c'est pas par la nature humaine, par l'esprit humain qu'on peut comprendre ça. C'est seulement l'Esprit de Dieu qui est dans nos cœurs. Si je n'ai pas l'Esprit de Dieu dans mon cœur, je ne peux pas comprendre ça. Ça, c'est vrai pour la justification. Puis c'est vrai aussi pour la sanctification. Si je n'ai pas l'Esprit de Dieu dans mon cœur, je ne peux pas comprendre la sanctification. Lorsque j'étais inconverti, je travaillais dans un hôpital, puis je pensais que j'étais une bonne personne. Le 10 mars 1977, le matin quand je me suis levé pour aller travailler, je pensais que j'étais une bonne personne, un bon gars. Je soigne des malades, j'aide les gens qui sont en... Les pauvres malades. Je pensais que j'étais une bonne personne. L'après-midi, quand j'ai lu, quelqu'un m'a montré la parole de Dieu, j'ai vu instantanément mon péché et la conséquence de mon péché. La mort, ma séparation spirituelle avec Dieu. Pourquoi j'ai compris ça tout d'un coup? C'est l'Esprit de Dieu dans mon cœur. À partir de quand l'Esprit agit-il de la sorte? Bien, c'est à la conversion. À partir du moment où ce que je suis justifié, que je me convertis, c'est la foi, ça vient avec la foi. Je reconnais ma perdition, je confesse mon péché à Dieu, c'est-à-dire je reconnais avoir offensé Dieu, puis je reconnais que ça met une séparation spirituelle entre moi et Dieu. Je lui demande pardon, je me confesse, je lui demande de me donner mon salut. Si je fais cette démarche-là, d'un cœur sincère, Dieu va répondre. Vous allez obtenir, premièrement, la certitude du salut, et deuxièmement, les Écritures vont devenir compréhensibles. La sagesse mystérieuse et cachée de Dieu va nous être révélée à ce moment-là. Alors ça, c'est la part de Dieu. Dieu, par son Saint-Esprit, travaille dans nos cœurs. La part de l'homme dans la sanctification, bien, ça parle de notre marche chrétienne. C'est se nourrir, ça parle de se nourrir spirituellement, de lire la parole, de prier, de fréquenter les autres chrétiens, les autres enfants de Dieu, de prier. Et de nombreux textes nous invitent à faire ça de différentes façons. L'apôtre Paul, toujours dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, les versets 1 à 8. Encore là, c'est un grand texte, mais remarquez bien le mot « sanctification » qui revient. Il dit « Au reste, frères, 1 Thessaloniciens 4, verset 1, « Au reste, frères, puisque vous avez appris comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard, comment? De progrès en progrès. » C'est pas la sanctification, c'est pas, on ne l'atteint pas le jour de la justification. La sanctification commence le jour de la justification, mais il faut que ça aille de progrès en progrès. Vous savez, en effet, quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. sans vous livrer à une convoitise passionnée qui font comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui nous a aussi donné son esprit. Alors, il dit, l'apôtre Paul, il dit, Dieu nous a appelés à la sanctification. Puis il dit, n'oubliez pas une chose, Dieu vous a donné son esprit. Vous avez l'esprit de Dieu qui est en vous. Vous avez, il dit ailleurs, il dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous avez une bonne raison de vous sanctifier parce que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous avez une autre bonne raison, c'est que le Saint-Esprit vous aide à faire ça. 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Alors, l'apôtre Paul, il dit, à l'égard des promesses que Dieu nous a faites, des promesses de salut, il dit, à cause de ça, de ces promesses-là, il dit, gardez en tête ces promesses-là, puis continuez votre sanctification, continuez d'œuvrer pour ressembler le plus en plus au Seigneur Jésus chaque jour. Galates, chapitre 5, à partir du verset 18. Je t'avais envoyé une correction ce matin. Je ne sais pas si tu l'as eu, là. OK. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alors ça, ce passage-là dans Galates, c'est le passage des fruits de l'Esprit. Les fruits de la chair puis les fruits de l'Esprit. Bon, alors ça, c'est en plein dans... C'est au cœur de la justification, c'est au cœur du sujet qu'on parle ce matin. Marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Alors, ici, l'apôtre Paul, il met en contraste ce que le Saint-Esprit nous montre dans nos cœurs, puis ce que notre chair voudrait faire. Mais il dit, laissez pas votre chair faire. Au verset 19, il dit, or les œuvres de la chair sont manifestes. Puis là, il énumère tout ça. L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Alors, si votre vie est caractérisée par ça, que il n'y a pas de fruit de l'esprit dans votre vie, ça regarde mal pour l'éternité. On reconnaît l'arbre à son fruit. Au verset 22, il dit, « Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. C'est à cause de ces choses-là que l'Esprit de Dieu, que nous pouvons, voyons, c'est à cause de l'Esprit de Dieu que nous pouvons faire ces œuvres. Notre part, c'est quoi? C'est l'obéissance, c'est obéir à sa parole. Colossiens au chapitre 1, versets 9 et 10 encore. encore ici, on voit, c'est la part de l'homme dans la sanctification. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Alors, augmenter notre connaissance de Dieu pour ressembler de plus en plus à Jésus chaque jour. Alors, ressembler à Jésus de plus en plus, comme je l'ai mentionné, bien, c'est ça la définition de la sanctification. Et finalement, je n'ai pas marqué la référence. Il dit, comme sa divine puissance nous a donné, c'est Pierre qui dit ça là, mais je ne me souviens pas, je n'ai pas marqué la référence. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Alors, en conclusion, la justification, c'est l'œuvre de Dieu, mais aussi, il y a une réponse qui vient de l'homme. C'est l'œuvre de Dieu. Oui, il y a une réponse qui vient de l'homme, comme je l'ai mentionné tantôt. Alors, la justification, l'homme entend la voix de Dieu, puis il a besoin de répondre. La sanctification, c'est l'œuvre de Dieu, mais aussi c'est l'œuvre de l'homme. C'est l'obéissance à sa parole. Alors, en conclusion, dans la sanctification, Dieu agit en nous, mais le croyant, il a une réponse à donner à Dieu. Dieu transforme nos cœurs, mais notre cœur doit obéir à Dieu. Dieu donne la force, Dieu nous donne la capacité de marcher pour la sanctification. Mais il faut que l'homme fasse des pas, il faut qu'on fasse des pas. Puis, dans la sanctification, Dieu nous garde. Puis nous, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? On a besoin de persévérer dans la foi. J'ai le désir de grandir spirituellement. Si Dieu m'a justifié, il m'a donné une voie pour éviter le jugement. Il veut que je ressemble de plus en plus à son Fils bien-aimé. Et comment je vais faire ça? C'est par la sanctification. Alors, que Dieu bénisse sa parole.